Bonjour. Étrange expérience que celle que vient de tenter TF1 de programmer en troisième partie de soirée, après les matchs de la Coupe du Monde de football, une émission tout en subtilité, en nuance, en second degré et en autoréférence. Je veux parler évidemment du Late Show d'Alain Chabat, dont la chaîne du groupe Bouygues a programmé 10 numéros, tous préenregistrés, dont je le disais en troisième partie de soirée. Alors, dans le ton et dans les thèmes, ces émissions sont venues percuter assez frontalement la télévision Bolloré et au premier rang son animateur phare, Cyril Hanouna. Que nous dit ce choc sur le décalage entre une certaine télévision d'hier et une certaine télévision d'aujourd'hui et au-delà, peut-être, entre le monde d'aujourd'hui et celui où régnait ce qu'on appelait alors, souvenez-vous, l'esprit canal. Question que nous allons poser à nos trois invités d'aujourd'hui. François Jost, vous êtes professeur émérite en sciences de l'information et de la communication. Vous connaissez ce monde-là par cœur depuis des décennies et des décennies. Christian Salmon, vous êtes écrivain passionné et par toutes les questions qui tournent autour du storytelling et de la narration. Et vous collaborez au site Slate, dans lequel vous avez commis plusieurs chroniques touchant au sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Nous rejoindra avec quelques minutes de retard Philippe Moreau-Chevrolet, conseil en communication, auteur d'une BD sur Cyril Hanouna, tiens, et invité occasionnel de Touche pas à mon poste. Alors, je crois que le premier travail qu'on va avoir ici, ça va être d'essayer de caractériser cette espèce d'ovni télévisuel pour les Français, qui est le late d'Alain Chabat sur TF1, en faisant semblant de n'y connaître rien et de ne pas posséder les références qu'il suppose, et en tout cas de s'adresser à des gens qui ne les possèdent pas. Alors je voudrais qu'on commence par un extrait de la première émission de cette série de 10 émissions, où donc Alain Chabat recevait l'acteur Jean Dujardin.
– Alors déjà, Jean, bravo, bravo pour Novembre. Novembre, film,
oui.
Film cartonne.
– Oui, ça marche bien, ouais. Oui, ça marche bien. Les gens sont au rendez-vous, on est contents, oui.
– Ouais, voilà, c'est chouette.
– Ouais, c'est chouette parce que, parce que ça redémarre, le cinéma redémarre, quoi. Ouais. On a eu un peu peur, hein, tous.
Ouais, on a eu un peu peur.
On est un.
Ouais. Ouais. Et alors, après Novembre, alors Décembre.
C'est Décembre.
Ouais. Décembre.
C'est juste après, ouais.
Ouais.
C'est juste après, c'est Noël, en fait.
Ben oui. C'est Noël. Et donc, Noël, j'imagine que vous allez le faire en famille.
Oui, a priori, j'imagine, oui.
Oui,
on fait souvent en famille ce genre de,
ouais.
De fête, ouais.
Ouais, ouais. C'est un moment qu'on aime bien partager.
Ouais, ben parce que c'est des moments.
Avec les proches.
C'est des moments émouvants, il y a de la fraternité, il y a du bonheur, il y a. Ouais.
Les cadeaux.
Il y a des cadeaux.
Non mais c'est-à-dire
non mais c'est moi pardon
non parce mais que... c'est pas non mais c'est pas vous en plus c'est pas vous c'est pas vrai c'est pas vous c'est pas enfin j'espère que c'est pas moi
non mais non. C'est la faute de personne Alain
c'est la faute de personne
c'est juste qu'à un moment ça prend pas ça,
ouais.
On a beau se connaître on est amis dans la vie
on est amis mais... en plus on est complices
ben oui on est assez complices mais là ça prend pas
ouais vraiment c'est la faute de personne
Alors, comme quoi le comique est quelque chose quand même de très relatif, pendant l'extrait, vous avez rigolé, oui. François Jost, Christian Salmon, mais pas du tout. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose Mais d'abord, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce que c'est que ce dialogue tout en blanc, en silence, en embarras, en gêne? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer
Oui, je vais être exactement comme Chabat, c'est-à-dire que je ne sais pas avancer non plus, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les missions, c'est-à-dire le jeu sur les codes de la promotion qui reviennent sans arrêt dans toutes les émissions. Et je pense qu'effectivement, ici, on a un esprit Chabat, c'est-à-dire dire des banalités avec le plus grand sérieux. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une émission qui se présente comme ludique, mais qui en même temps, temps et sur un ton tout à fait sérieux, et on dévide des évidences, des banalités. C'est un mode de comique qui existait déjà.
Mais alors, par exemple, l'embarras, la gêne, je veux dire, sur les réseaux sociaux, au lendemain de cette émission, plein d'internautes ont parlé de gênance. Il me semble même que l'article du Monde a parlé de gênance, mais ce spectacle de la gêne est volontaire, pas volontaire ?
Ben oui, ça c'est intéressant que les gens aient réagi comme ça, parce qu'il est évident que c'est un second degré, mais comme tout second degré, ben, ce n'est pas toujours facile à déceler. Ici, on a effectivement à la fois une complicité entre deux personnes, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas une interview de promotion, c'est une déconnade, je vais dire, entre copains, et c'est ça qui trouble parfois le téléspectateur.
Christian Salman, vous n'avez pas rigolé du tout. Ça vous fait pas rire? Ça vous a pas fait rire?
Si, intérieurement. Ah, non, intérieurement, je souriais. Si je ne riais pas, c'est que je réfléchissais en même temps en regardant sur les codes. Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est le décalage historique avec l'époque dans laquelle on est. C'est-à-dire que là, on a une sorte d'auto-ironie des personnages entre eux qui consentent à jouer un peu un rôle pas très valorisant pour eux, qui acceptent de ne pas parler, en tout cas de l'acteur de son film, qui se cantonne à la banalité. Je dirais au non-clash. Et l'ironie, s'il y a ironie, c'est une auto-ironie. C'est-à-dire que c'est la grosse différence, on va en parler, avec des émissions de clash, parce que moi j'avais appelé l'ère du clash. C'est-à-dire que l'ironie est toujours, si on peut parler d'ironie, mais la violence, l'agressivité, là il y a une sorte d'auto-parodie qui est très proche peut-être avec le travail qu'on fait en littérature. Que fait un narrateur. C'est-à-dire que rien n'est au premier degré dans un roman. Tout est au second degré. Et si on parle de Noël, on ne va pas parler de Noël au premier degré comme ils le font. On va en parler comme ils le font, c'est-à-dire au second degré. C'est-à-dire, en quoi Noël est une sorte de rencontre entre l'esprit public et le cliché.
Donc ils font de la littérature, là.
Non, je ne dis pas qu'ils font de la littérature, mais ils appliquent le procédé qu'on trouve dans toute la littérature depuis Rabelais, qui est l'auto-ironie, et non pas l'agressivité. C'est Gogol qui parlait du rire. Le rire, disait-il, qui n'est pas une satire, qui stigmatise pas l'autre, mais qui est au contraire une sorte de déploiement de la nature souriante de l'homme. Bon, ils sont là-dedans, quoi.
Bah, disons, Rabelais, Gogol, rien que ça, hein.
Moi, je fais une référence un tout petit peu plus médiatique. Ça me fait penser à ce que faisait Misrahi dans les interviews où il interviewait François Sagan sur des banalités, sur une photo de vacances.
Je me demande si c'était pas des proches, ça. L'interview de Sagan. Mais c'est, oui, mais
il l'a fait aussi.
Je voulais en parler, mais je ne me rappelais plus son nom. Ouais. C'est ça. J'adorais.
C'est un problème qu'on partage.
Mais, donc Raphaël Misrahi.
Oui, Raphaël. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une escalade de gêne. C'est-à-dire que le répondant ou celui qui poursuit la question du précédent est encore plus gêné et de plus en plus gêné. Mais ça se retransmet sur celui qui interroge. Et donc, on a une interview où on se dit, mais pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font?
Mais alors, cela dit, pour des téléspectateurs de TF1, des téléspectateurs du Mondial, je veux dire, ils ont regardé le match, ils restent sur TF1. Est-ce que ce n'est pas quand même très casse-gueule, supposant qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas les références?
Moi, je le pense.
Ah ouais.
Je le pense. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans le second degré. Et si on prend des émissions, je ne sais pas si on en reparlera, mais Danouna, par exemple.
On en parlera.
Lui est vraiment dans le premier degré, c'est-à-dire qu'il tient des jugements sur la réalité. Et on discute autour. Bon, alors que là, ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, on est dans le ludique. On sait bien. C'est peut-être d'ailleurs ce qui écarte cette émission des late shows américains, parce que c'est une suite de sketchs, c'est beaucoup plus ludique et on frôle toujours le quiz burger. Ce qui est évidemment étonnant, c'est le sérieux hein, qui préside à toutes ces conversations complètement absurdes. Ça pourrait être du Ionesco aussi, hein, d'une certaine façon.
Et ben voilà, et Ionesco, tant qu'à faire. Alors, c'est vrai qu'on on peut se demander si... je veux dire, le rire peut ne pas jaillir spontanément de la séquence qu'on vient de voir. En revanche, il en est d'autres qui jouent tout autant sur le cassage des codes de la promo, mais qui sont plus efficacement et plus immédiatement drôles. Je pense à une autre séquence un peu comparable avec le comédien Gérard Darmon.
Là, c'est un late show. La plupart des codes du late show sont respectés.
Ah oui.
Un invité, vous par exemple, vient, il parle de son actualité, on déconne un peu. Et votre actualité, Gérard, c'est une pièce que vous jouez à Paris jusqu'au 31 décembre 2022, hein, je crois, et on aura l'occasion d'en parler.
Pas de pression, hein, moi je suis là pour ça.
Je sais que cette pièce vous tient à cœur, et oui. Vraiment, alors ça, je ferai un point d'honneur
Merci.
À en parler, mais alors vraiment
Merci
en parler.
Beaucoup.
Nous allons appeler notre prochaine invitée, qui est une comédienne que j'adore, et on aura l'occasion d'en parler encore une fois. Gérard, ne Merci. Bougez pas. On va Tout reparler de justement de votre actualité, Alice, de votre actualité.
Si après, on peut aussi un peu parler de la pièce que je joue.
Oui, alors regardez l'affiche, ou non, où on l'enlève, parce qu'effectivement, on va en reparler.
Mais après, oui, bien sûr.
On a le temps. Voilà, c'est un late show, on fera de la promo, c'est pas comme dans Burger Quiz. Nos invités ont une actualité très chargée.
Et moi, oui. Pardon.
Ben, peut-être plus certains que d'autres.
Ouais. Justement, c'est peut-être le moment, non, de
après
ce petit jeu. Oui, de parler du théâtre, la pièce, parce que j'aimerais bien...
C'est une pièce, c'est à Paris.
Ouais.
Si vous habitez Paris, et si vous n'habitez pas Paris, vous pouvez venir à Paris. C'est jusqu'au 31 décembre.
Pardon, on pourrait plutôt parler de nous, vu qu'on fait du cinéma, c'est quand même plus important que le théâtre.
Alors, on parlait de comique et de théâtre, c'est rigolo parce que vous parliez de Ionesco pour la première séquence. Là, on est plutôt dans un ressort comique de boulevard à la Feydeau, avec
De comique de répétition.
De répétition.
Parce que ça dure pendant toute l'émission, on va en parler. Mais effectivement, vous posiez la question du spectateur de TF1. Il y a quelque chose d'assez raide, je dirais, dans le fait de passer d'un spectacle au premier degré. Parce que je crois que pour le foot, on a du mal à distancer le spectacle à quelque chose qui ne joue que sur le discours, finalement. C'est-à-dire que c'est le discours qui se prend comme modèle. Et c'est pour ça que c'est une émission très méta, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on déconstruit les codes des late shows, pardon.
Ouais. Et de fait, d'ailleurs, je veux dire, elle est beaucoup moins regardée que les matchs qui la précèdent dans la grille de TF1. On passe de 6 ou 7 millions de téléspectateurs, je crois, pour les matchs.
Moins d'un million aujourd'hui.
À moins d'un million. Ce qui est, après, une déperdition un peu normale au fur et à mesure qu'on progresse dans la soirée, mais quand même importante.
On est tombé assez bas, là.
Ce qui reste un score honorable, quand même. Hein, mais je pense que le téléspectateur du Mondial... je sais pas, mais il me semble qu'il est dans le poste après le Mondial, il ne va pas suivre ça. Là, cette émission fait appel, au fond, à une espèce de nostalgie de la télévision, de l'esprit canal, comme vous disiez au début. Et c'est, au fond, c'est très intéressant de le revoir maintenant, parce qu'au fond, on voit ce qu'on a perdu. C'est-à-dire à la fois la dimension d'ironie à la télévision, la télévision est un média sérieux, hein, de premier degré.
Vous voulez dire aujourd'hui ?
Aujourd'hui, oui.
Ce qui n'était pas le cas avant, selon vous.
L'esprit canal, quand même. Les guignols, d'ailleurs, Bolloré, la première chose qu'il a supprimée, c'est les guignols. Les guignols aussi avaient cette sorte d'ironie dans l'ironie, de parodie, parce que c'est les guignols, mais en même temps, ils se parodient eux-mêmes. Et leur rapport aux politiques, à l'événementiel, etc., était toujours dans un double sens, dans un regard un peu décalé. Moi, je trouve que c'est très sain. Vous parliez de méta-télévision, moi je dirais de méta-récit. C'est-à-dire que c'est très sain qu'à la télévision, on ait eu à un moment donné, c'est malsain qu'on l'ait perdu, ce regard en fond distancié et autocritique, autoparodique. Parce que là, on ne se moque pas seulement du format de la promotion, hein, les artistes qui vont, ce qui maintenant a coloniser tous les écrans. Il n'y a que ça, que de la promotion. Et parfois, on n'est jamais invité en dehors, par exemple, de l'apparition d'un livre, etc. Donc il y a cette parodie de la promotion. Il y a la parodie aussi du narcissisme des auteurs. Là, en l'occurrence, Darmon, qui va absolument parler de son livre, de sa pièce.
Il est là pour ça. Hein.
Il est là pour ça.
Il le joue. On est bien d'accord que tout ce qu'on vient de voir là, il s'agit de sketchs écrits.
Absolument.
Voilà. Il ne s'agit pas d'improvisation.
Et tout est surjoué. Oui. C'est-à-dire que non, c'est très sain pour l'esprit public, en fait, parce que ce sont des acteurs, à tous les sens du mot, qui acceptent de se parodier eux-mêmes. Ce qui, justement, dans le pamphlet, dans l'agressivité, est interdit, est impossible.
Et ça, justement, il me semble, arrêtez-moi si ce que je dis n'est pas exact, mais il me semble que, justement, cette capacité des acteurs, des invités de ce type de show à se parodier eux-mêmes, est quelque chose qui caractérise les late shows américains dont cette émission est une sorte de démarquage. Oui, oui. Et d'ailleurs, y compris, comme on le voit dans cette image, jusque dans la mise en scène, c'est-à-dire la position de l'hôte par rapport à ses invités.
– Mais ce qui change, à mon avis, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de jeux et que ça renvoie à Burger Quiz qui est refait sur le plateau là, du late. Et… on dit que les audiences sont mauvaises. Mais en fait, la stratégie de TF1 me semble un petit peu différente. C'est que ça touche des jeunes. Et très curieusement, quelqu'un comme Chabat, qui a quoi, sexagénaire ou quelque chose comme ça, est très connu des jeunes par le biais des réseaux sociaux, par le biais des plateformes, etc.
– Alors Chabat, il faut rappeler, alors, il est connu de notre génération, j'ai envie de dire,
ben oui.
par les nuls, l'esprit canal, etc. Voilà, voilà. Regardez comme il était jeune, nous aussi. Bon, il est connu par un certain nombre de films extrêmement populaires, donc il a été soit le réalisateur, soit l'acteur ou les deux. Et ensuite, voilà, Astérix, Mission Cléopâtre, et ensuite Burger Quiz.
Voilà, donc ça ne touche pas sans doute le vrai fan de football, mais ça touche, c'est-à-dire on le voit sur les audiences, le replay est très important, et il est très important sur les tranches de 15 à même près de 49 ans, je crois. Donc c'est aussi un but de toutes les chaînes aujourd'hui.
– De rajeunir. –
Voilà, rajeunir l'antenne. Et donc, un peu comme ils l'ont fait sur TMC, où on pensait que la greffe avec Barthès ne prendrait pas, et puis finalement, s'il y a un vrai public de jeunes, etc., là, il faut un essai qui n'est pas raté de ce point de vue-là.
– D'accord, qui est bien tenté. Alors vous parliez de l'effet de choc avec les chaînes Bolloré, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les chaînes Bolloré. Il y en a à qui ça n'a pas échappé, c'est l'animateur phare de ces 8 chaînes Bolloré, Cyril Hanouna, qui depuis 15 jours n'a pas cessé de sortir la grosse artillerie contre Alain Chabat et son late show. On regarde.
Là, on va parler malheureusement du grand débrief du late show d'Alain Chabat. C'est catastrophique côté audience, sachez-le. Le problème aussi qu'il y a dans l'émission d'Alain Chabat, c'est que l'émission n'est pas en direct. Donc ils en ont tourné en batterie 10 et donc ils ne peuvent pas parler d'actualité. Donc c'est dramatique. C'est vrai que voilà, pour l'instant c'est un drame, c'est un accident vraiment pour TF1.
Je trouve que le second degré, quand il est mal écrit, ça ne marche pas déjà en télé. Ouais, et là c'est le second degré voilà,
c'est pas bien écrit.
Pour TF1, c'est un drame d'audience, c'est un drame d'image, c'est un drame de tout. Même quand il danse et tout, les gars, ça y est, il est très gentil, très sympathique, mais ça y est, excusez-moi, c'est fait.
C'est ringard.
Ouais, c'est ça.
Il est ringard.
Et c'est vrai que les chiffres sont dramatiques, sachez-le, je vous le dis, hein. Vous pouvez beau voir les communiqués, tout, c'est un drame, les chiffres, on va pas se mentir.
Là, il y a zéro rythme, il parle à des gens dans le public qu'on connaît pas, ils sont acteurs apparemment, il n'y a pas de sketch, c'est lent.
Non, mais c'est lent. Mais alors, je vous jure que Raymond, il parle.
C'est très, très lent.
C'est un désastre. Là, pour eux, c'est une énorme désillusion.
J'ai trouvé ça forcé. C'est pas drôle, les sketchs sont interminables, il n'y a pas de rythme, c'est des faux rires.
Là, les gars, il fait 800 000 sur TF1, c'est une catastrophe industrielle.
Il ne faut pas se voiler la face, c'est un naufrage, cette émission. Je veux dire, qu'on aime Alain Chabat ou pas, c'est un naufrage.
On est d'accord, voilà.
Le problème de cette émission, c'est qu'elle n'a pas été pensée pour faire plaisir aux téléspectateurs, elle a été pensée pour faire plaisir à Alain Chabat. Donc en fait, au lieu de s'adresser aux gens qui regardent, on est dans l'entre-soi, on est dans des parodies qui parlent que à trois bobos.
Ils ne comprennent rien, ils étaient persuadés qu'ils allaient faire un carton. Et là, je vous dis, c'est l'accident industriel de l'année.
Alors, Philippe Moreau-Chevrolet nous a rejoint. Pourquoi, à votre avis, Hanouna a-t-il ainsi sorti la grosse artillerie immédiatement contre Chabat ?
D'abord parce qu'il a besoin d'ennemis, donc il existe aussi par antithèse avec d'autres choses. Donc quand il dit, par exemple, il y a un des chroniqueurs qui dit trois bobos, c'est très clairement, eux se situent constamment du côté du public populaire, contre le quotidien, normalement, qui est leur adversaire principal, leur némésis, qui est le côté ultra-bobo et entre-soi. Et
quotidien de Yann Barthès, hein,
sur TMC, qui normalement est leur adversaire numéro un. Là, il a trouvé un nouvel adversaire qui est Alain Chabat. Puis par ailleurs, il avait essayé de faire un late show et ça n'avait pas bien marché. Donc je pense qu'il est aussi en train de dire pas touche à un territoire que j'aimerais bien.
Alors c'est personnel, excusez-moi, c'est personnel, c'est une question de susceptibilité personnelle parce que lui a essayé, il n'a pas réussi. Je crois qu'il avait plus ou moins aussi candidaté pour venir à Burger Quiz, il a été retoqué d'un geste méprisant par Chabat. C'est personnel ou c'est systémique, c'est-à-dire c'est un modèle de narration télé contre un autre modèle de narration télé.
Il fait une émission sur les médias déjà à la base à Nouna, donc ouais. Il y a une volonté de prise de pouvoir sur un secteur. Mmh. Quand vous avez fait Arrêt sur image, c'était pour essayer de décrypter. Lui, pas du tout, il décrypte pas. Par contre, il est là pour décerner des bons et des mauvais points, ce qui lui donne une position en surplomb et ce qui lui permet au fond de faire l'arbitrage de ce qui marche ou marche pas. Il se place en quelque sorte en patron de chaîne qui va juger la production de la concurrence pour la désinguer aussi. Donc il y a aussi une volonté, je pense, d'attaquer frontalement les concurrents de C8 ou de l'univers C8, CNews.
François Jost.
Oui, moi je pense que c'est tout à fait deux modes de télévision totalement différents. C'est-à-dire que Hanouna, c'est un animateur qui est tout puissant, c'est-à-dire qu'il a le droit de vie et de mort sur les gens qui sont autour de lui, hein, il peut les virer.
Oui, d'ailleurs, il baisse le pouce et on voit que tous les chroniqueurs attaquent.
Il peut les virer, etc. Alors que le mot qui revient dans le late show, c'est le mot complicité. C'est-à-dire que c'est un truc entre copains, entre amis, etc. Et donc, où tout le monde travaille pour le show, pour être plus drôle. Donc il y a un rapport très vertical chez Hanouna, qui est beaucoup plus dialogal, disons, dans les shows.
Ouais, en même temps, Chabat décide aussi d'inviter qui il veut, il invite ses copains.
Enfin, voilà, c'est le copain. C'est-à-dire que c'est très
plus égalitaire, aussi. Plus égalitaire, à votre avis, que la bande de chez Hanouna.
Si vous voulez, si on compare avec les late shows américains, où on reçoit des gens qui ont une actualité, etc., là, certains, ils ont une actualité, mais c'est surtout pour le plaisir de refaire une bande qui travaille ensemble et qui s'amuse ensemble. Donc, c'est deux façons de voir très, très différentes.
Comme vous le disiez vous-même, ce n'est pas seulement une question de désir, de plaisir de la part de chez Chabat. Il y a aussi un pari industriel de TF1.
Bien sûr.
Ce n'est pas seulement une chouette bande qui souhaite revivre ces grandes heures de chouette bande.
C'est un certain type d'esprit de partage. Ouais. Qui est celui des réseaux sociaux. C'est-à-dire, le vrai mot des réseaux sociaux, c'est ça. C'est on partage les trucs. Et là, c'est fait pour partager, pour continuer à vivre sur les réseaux, avec des replays.
Si vous parlez de réseaux sociaux, Hanouna fait un malheur sur les réseaux sociaux. Il y a des dizaines, mais des milliers de fans.
Mais d'une autre façon. C'est-à-dire que, ce que Hanouna fait, c'est que si on touche un cheveu d'Hanouna, il y a effectivement des réactions de tous les fans qui vous écrasent complètement. Là, c'est pas, c'est pas mal intentionné.
Il vaut mieux pas trop égratigner Chabat sur les réseaux sociaux. Il a aussi un certain nombre de fans.
Oui, peut-être.
Christian Salmon.
Vous avez parlé de deux modes de narration en posant la question. Oui, je crois que c'est ça le problème. Il faut prendre la mesure, pas seulement des rivalités personnelles entre Hanouna et Chabat ou des retours de vengeance, d'avoir été exclu et d'être en position dominante aujourd'hui et d'en profiter. Je crois qu'il y a deux... on a parlé beaucoup de parodie, d'auto-ironie. Moi, il y a un moment, un passage... pour ne pas comprendre le passage entre ces deux modes de narration. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'Hanouna et Chabat, il s'agit de deux moments historiques, socio-historiques, sociopolitiques même, où la télévision entre dans un rapport à l'audience complètement différent. Cet épisode, c'était pendant la campagne électorale, au moment de l'explosion de la candidature Zemmour, où, vous vous souvenez, un YouTuber nommé Papachito avait mis en en ligne une vidéo dans laquelle on torturait un militant de gauche et on l'exécutait jusqu'à la mort. Et Zemmour, qui se revendique comme un ami de ce youtubeur néo-fasciste, il faut dire les choses comme elles sont, a défendu son ami Papacito. De quelle manière? En disant c'est l'esprit Canal+. C'est l'esprit Canal+.
On voit l'image de cette vidéo YouTube de Papacito.
Voilà. C'est l'esprit Canal+. Et là, on voit à quel point le basculement s'est fait. C'est-à-dire que l'esprit Canal+, justement tel que on pourrait le trouver un peu dans ces émissions de Shabbat, c'est de l'auto-ironie. C'est-à-dire l'ironie est dirigée contre soi et non pas entre soi. Parce que le véritable entre-soi, c'est Hanouna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix dissidente, il n'y a pas une voix divergente dans le modèle de narration de Hanouna. Et tout est dirigé contre. C'est-à-dire que c'est la logique, vous parliez de la complicité, de la logique de la bande, des amis, etc. C'est-à-dire, oui, c'est comme un dîner entre amis où on essaie de ne pas se prendre au sérieux. Et si on évoque le destin la promo de l'un ou de l'autre, c'est pour s'en moquer gentiment. Là, c'est la logique du gang. C'est une toute autre logique. C'est-à-dire que c'est la logique d'abord verticale, comme vous l'avez dit. Il y a un chef, il y a un leader. Ce leader, vous avez eu l'accident industriel. Et c'est revenu trois fois dans l'extrait que vous avez montré. L'accident industriel. C'est-à-dire que c'est l'un des critères de la performance médiatique, c'est l'audience, exclusivement. Oui. Et cette audience, elle repose sur quoi? Sur la logique du gang, c'est-à-dire la logique du ralliement, de la loyauté par rapport au chef. On est dans un modèle vraiment de narration archaïque et super violent, en fait.
Alors, il y a un critère, effectivement, qui est l'audience, vous le disiez. Il y a un autre critère d'appréciation des émissions extrêmement important dans la manière dont on en parle chez Hanouna, c'est le coût de ces émissions. Et Hanouna a tenté d'attaquer le late d'Alain Chabat sur cette question du coût de chaque émission avant de faire assez piteusement marche arrière quelques jours plus tard.
Sachez que l'émission coûte très cher. Elle coûte, on m'a dit pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais aux environs de 350 000, 400 000 euros.
Wow.
Ce qui est énorme, la soirée. Donc c'est énorme. On a des infos, sachez que l'émission coûte chaque numéro 500 000 euros.
Oh hein,
c'est 5 millions les 10 émissions, 400 000 euros pour la production et 100 000 euros pour les invités.
100 000 euros
100 000 euros pour payer tous les invités par émission. C'est lors de la mise au point ce soir, elle concerne le late show d'Alain Chabat. Alors je vais vous dire, ce week-end, TF1 était en panique totale parce que j'ai donné des chiffres sur combien coûtait l'émission. Alors, ils ont rien dit sur les chiffres. Ils ont dit oui, on ne donne pas 100 000 aux invités. Je dis qu'ils donnaient 100 000 aux invités. Quand je dis 100 000 aux invités, c'est bien simple. C'est quand ils font venir un groupe de Los Angeles, je peux vous dire que ça leur coûte énormément d'argent. L'info que j'ai, elle est pratiquement sûre et certaine. Là, ils viennent de démentir. Ils ont dit que c'était 250 000 par émission. Moi, je pense que c'est 500 000 la journée. Voilà. 500 000 la journée, je ne sais pas s'ils tournent une ou deux émissions. Voilà, peut-être qu'ils tournent deux émissions par jour, mais je vous dis, mes infos étaient donc les bonnes puisque c'est 500 000 la journée. J'avais peut-être oublié de préciser que c'était la journée. Voilà.
Voilà, mes infos étaient donc les bonnes, sauf que j'avais donné un montant qui était le double du montant réel.
Et le discours, c'est de dire que c'est une émission élitiste. C'est une émission élitiste parce qu'ils recrutent des copains qui ne sont pas comme vous. C'est une émission élitiste parce qu'elle coûte cher. Mais en fait, le fond est toujours le même. Moi, je fais partie du peuple. Et les autres,
moi,
c'est
Hanouna,
l'élite. Hein. Moi, Hanouna, moi qui suis avec mes chroniqueurs qui ressemblent au fond à la France dans sa diversité, parce qu'il a conçu son plateau d'une manière assez stratégique. Il ne faut pas penser que c'est stupide. Il a conçu une espèce de famille autour de lui avec des rôles caricaturaux qui sont réduits à être des rôles. Mais ça compose une espèce de vision de la France qui est dans son esprit à lui, en tout cas, la France populaire.
Et alors, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que justement, derrière vous, on voit la brochette de chroniqueurs. Et alors, pour vous, tous ces personnages composent la France telle qu'Hanouna la rêve.
Oui, il y a un chroniqueur qui m'a expliqué ça, parce qu'on a fait une BD, le président qui est consacré à Hanouna. On a beaucoup cherché, on a communiqué avec des chroniqueurs, on ne leur a pas dit qu'on faisait une BD mais on leur a dit qu'on était en train de travailler sur le sujet, voilà, et ils nous ont donné pas mal d'informations sur la manière dont c'est vécu. Donc c'est d'abord les chroniqueurs sont corvéables à merci, c'est-à-dire qu'il leur a balancé du chocolat, il leur fait des blagues, etc. Bon,
on peut aussi dégager un certain nombre de stéréotypes.
Oui, il y a des stéréotypes
dans les personnages.
Alors,
qu'on voit là.
On a le personnage. Chaque personnage est supposé avoir une caractéristique qui lui permet éventuellement d'être moqué ou humilié en plateau. On va pouvoir comme ça se défouler un peu sur lui. Donc il y a, je sais pas, Gilles Verdez, c'est l'oncle, un petit peu le vieil oncle dont on peut se moquer gentiment.
Alors quoi, c'est celui qui est en bas à droite. Avec
c'est celui qui est ici. Voilà. Après vous avez beaucoup de gloire sur le retour. C'est-à-dire en général des gens en difficulté qui donc vont dépendre totalement du système Hanouna. C'est-à-dire que quelqu'un comme Jean-Marie Bigard, il est banqué, entre guillemets, il est rentable sur les réseaux sociaux, mais il n'est plus vraiment admis nulle part, il a fait beaucoup de dérapages, il ne fait plus vraiment de succès populaire. Et du coup, il va chez Hanouna parce que c'est un petit peu son débouché naturel. Et ça permet à Hanouna d'avoir beaucoup de noms de gens et qui sont célèbres sans être célèbres et qui dépendent totalement de lui et qui vont jouer le rôle, là en l'occurrence, je sais pas, du vieil oncle raciste, j'en sais rien.
Il y a de leurs mots qui est très important. Comme
de leurs mots.
Homosexuel,
de leurs mots, chemise blanche, dernier à droite, sur la rangée du haut.
La contrepartie, quand même, c'est que chacun d'entre eux, de cette façon-là, peut revenir ou s'insérer dans le jeu médiatique, animer des émissions et devenir une star. Mais pour ça, il faut accepter un niveau d'humiliation incroyable. Mais le plateau représente avec, vous avez la blonde éthérée, vous avez le vieil oncle, vous avez effectivement l'homosexuel, vous avez chacun joue un rôle.
L'idiote aussi.
L'idiote de service joue un rôle sur le plateau. Et ça permet de faire une espèce de comédie populaire, un peu comme les comédies de Christian Clavier, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Voilà. C'est des mix qui sont, on met un petit morceau de chaque chose, et quand c'est réussi, ça fait de l'audience.
Moi, ce qui me frappe là-dedans, d'ailleurs, dans l'extrait qu'on vient de voir, Hanouna l'a dit, il a dit « j'ai une info », etc. C'est comment il se présente quand même comme une sorte de journaliste, c'est-à-dire où on parle de vérité. Et ça rejoint évidemment le populisme aussi, c'est-à-dire qu'il y a la vérité, on l'a vu avec l'affaire Lola qui a été sinistre, hein, où il disait « il faut une justice expéditive, il faut rétablir la peine de mort, plus ou moins, etc. » Et on voit qu'il entre dans la réflexion sur le monde contemporain, ce qui n'est pas du tout le cas de Chabat. C'est-à-dire, Chabat, c'est un prétexte à dérision, quand même. Bon. Et c'est pour ça qu'il est très dangereux.
Chabat est au second degré, et constamment au premier degré. C'est ça la différence.
C'est ce qui le rend extrêmement dangereux. Parce que, effectivement, en plus, il est quand même, comme vous l'avez dit, celui qui distribue les bons points.
Sur les réseaux sociaux, on n'est qu'au premier degré.
Attention, parce que je me suis demandé, en le regardant ces jours-ci, s'il n'avait pas fait une tentative d'incursion dans le second degré. Hanouna, dans cette courte séquence qu'on va voir maintenant.
Je voudrais qu'on accueille, je vous le dis, j'ai pris un gars de fou. Voilà, on va appeler un des spécialistes des médias. Il est avec nous ce soir, il va nous dire vraiment pour lui si ça marche ou pas. C'est un des plus grands spécialistes des médias en France. C'est parti, Michel Carnot. Michel, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Avant de parler de télé, je vais dérouler son CV, vous allez dire. Voilà. C'est un truc de fou. Il a co-créé le MIPCOM, Marché International des Programmes de Communication. Il a été consultant artistique sur Ciel Montmartre avec Christophe de Chavannes. Directeur des programmes de TV5 Monde, directeur des magazines de la Rai Uno en Italie, consultant et analyste pour Médiamétrie, directeur de rédaction de la rubrique Média de Télépoche, aide au déploiement de la télévision numérique terrestre, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, conseiller stratégique au sein du groupe Bertelsmann, RTL, M6, Prisma. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la télé. Alors,
pas stable, hein.
Monsieur Carnat, au vu de votre expérience et de vos compétences, je vous pose une question. Que pensez-vous des audiences du Late Show d'Alain Chabat sur TF1?
Les audiences, c'est catastrophique.
Merci.
Alors, moment historique, première tentative d'incursion d'Hanouna dans le second degré, puisque cette séquence qu'on vient de voir avec un faux ponte des médias parodie des séquences qu'on peut voir chez Hanouna lui-même, et dont certaines, vous en êtes le protagoniste, ou quand Hanouna invite des vrais pontes des médias, comme vous. Extrait qu'on va regarder.
Moi, j'avais fait une BD sur vous, le président. D'ailleurs, je suis dans le rapport du CNRS aussi, avec la BD.
Bah oui ou pas.
Parce qu'on avait parlé, on avait dit en gros que c'était vous intéressiez à la politique. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas la démarche. Vous n'êtes pas dans la télé. Vous êtes dans l'engagement, c'est-à-dire que vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous êtes branché là-dessus, et vous êtes le seul à avoir invité les Gilets jaunes en plateau, en télé au début, parce que vous essayez de voir ce qui se passe, en fait, dans les tendances de la société.
Et vous avez raison, sur des plateaux, elle peut voir aussi le temps d'antenne des Gilets jaunes l'année dernière. Ah, elle aurait dit,
moi, je suis sur les plateaux en permanence pour parler politique, et je suis de plus en plus entouré de gens qui sont des partisans d'Éric Zemmour. Donc il se passe un truc qui a une dynamique électorale, une dynamique politique. Là, c'est pas vous qui l'avez créé, cette dynamique. Par contre, vous avez été branché dessus avant les autres, parce que vous avez cette, vous allez chercher sur les réseaux des autres que les autres ne trouvent pas. Mais ce n'est pas de la télé que vous faites, c'est de l'engagement.
Alors, et il faut saluer quand même l'exercice particulièrement casse-gueule, particulièrement casse-gueule, d'aller faire la promo de sa bande dessinée relativement critique sur Hanouna tout de même, d'aller faire cette promo sur un plateau d'Hanouna.
Mais moi j'aime bien faire ça.
Sans risquer de se faire retoquer par Hanouna et de faire une, et de faire une Louis Boyard.
En disant ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est très compliqué à faire, c'est véritablement très difficile. C'est bizarre de se regarder, parce que je me regarde jamais, je déteste me regarder, mais le truc c'est que... il fait vraiment de l'engagement, et je suis très sérieux là-dedans, c'est-à-dire qu'il va aller regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe, y compris avec de la manipulation. Parce qu'on sait maintenant, là où j'ai fait une erreur, c'est que le phénomène Zemmour est un phénomène qui a été très surestimé, même si 7%, ça reste beaucoup et préoccupant. La dynamique qu'on a enregistrée...
– Il l'a énormément surestimé, et on le sait maintenant depuis les études de Claire Sécaille.
Oui, il a été... Alors, la différence avec Claire Sécaille, et c'est pour ça que j'étais en plateau d'ailleurs, c'est que moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que lui est d'extrême droite. Et je ne pense pas que ce soit dans une logique de promotion d'extrême droite. C'est mon opinion.
Il a quand même surinvité Zemmour.
Il a surinvité Zemmour, je pense, parce qu'il s'est fait manipuler, mais c'est presque plus inquiétant. C'est presque plus inquiétant qu'autre chose. Zemmour est un phénomène qui a été créé sur les réseaux sociaux, qui a été très, très manipulé. D'ailleurs, il y a une enquête du Monde là-dessus.
Pardonnez-moi. Créé sur les réseaux sociaux et hyper créé aussi par Bolloré, qui lui a quand même donné une émission en prime time sur une de ses chaînes.
Ils ont lancé Zemmour au moment où ça marchait déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve plus préoccupant, c'est la fabrique sur les réseaux sociaux du phénomène Zemmour. Parce que moi, je suis un spécialiste de ça, et on a créé un phénomène qui n'existait pas. Il y a une enquête du Monde qui a montré ça, c'est-à-dire que le phénomène de monter sur les réseaux sociaux de Zemmour, qui a alimenté beaucoup les médias et qui a créé la dynamique au départ, ne reposait sur rien de réel.
Enfin, on ne peut pas revenir sur Zemmour.
C'est ce qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire qu'on a manipulé une tendance et on a créé artificiellement une tendance. Lui, il est branché là-dessus, et c'est là où il est presque plus dangereux que s'il était vraiment engagé politiquement, ce que lui, à titre personnel, je ne pense pas qu'il le soit, mais en revanche,
pardonnez-moi, mais attendez, on peut commencer. Alors, peut-être que le doute...
Moi, c'est mon opinion.
Peut-être que le doute existait au moment où vous êtes participé à cette émission. Quand on regarde aujourd'hui les émissions de ces dernières semaines, par exemple, sur l'affaire Lola, sur l'autodéfense, quand on voit que chaque soir, ou quasiment, il y a chez Hanouna une histoire d'autodéfense, une histoire de squatteurs qui ont dépossédé un malheureux couple de propriétaires.
Je ne dis pas que j'approuve cette thèse-là, je suis contre. J'ai dit juste que c'est une erreur de penser qu'il est politique. C'est presque malheureux, mais je ne pense pas que ce politique. En revanche, il est branché sur des réseaux sociaux. Et il va refléter des émotions.
J'ai envie de vous dire, à la limite, on s'en fout. Lui, personnellement, on s'en fout. Non, ce qui est intéressant, c'est le spectacle. Ce qui est intéressant, c'est le spectacle.
Je suis d'accord.
Juste Jean Kelevitch, dans son travail sur la méchanceté, dans son livre sur la méchanceté, distingue bien entre la méchanceté et les actes de méchanceté. C'est-à-dire qu'on peut faire des actes de méchanceté sans être méchant psychologiquement, etc.
Des actes politiques, il en fait tous les jours.
Lui, il a des actes d'extrême droite. Alors après, peut-être qu'il ne l'est pas, qu'il ne s'en rend pas compte. Mais n'empêche que quand il dit qu'il faut quasiment rétablir la peine de mort, qu'il le dit devant des jeunes, etc., c'est quand même extrêmement grave.
Il fait du populisme. Moi, je l'ai analysé comme un leader populiste.
Christian Salmon.
Bien sûr, c'est un leader populiste. C'est sûr.
Christian Salmon.
Pour trancher peut-être sur cette question, je crois qu'il faudrait rappeler dans quel contexte on se trouve et dans quel contexte ce genre d'émission, parce qu'il y a Hanouna, mais ne soyons pas trop enfermés dans le cadre français, il y a le Brexit en Grande-Bretagne, il y a la campagne de Trump en 2016, tout ça fonctionne sur, c'est pour ça que c'est l'engagement et les opinions politiques, finalement, ne se contredisent pas. Parce que on a, par exemple, un show tous les soirs d'Alain Zemmour sur la télévision américaine, de Tucker Carlson, qui au départ était un journaliste un peu comme Zemmour, de droite, mais disons prônant un débat public raisonné, argumenté, etc., et qui a progressivement dérapé.
Sur Fox News,
Oui, sur Fox News. Et qui est devenu, il fait des audiences de 4 millions de téléspectateurs chaque soir. Un peu le genre, le modèle Zemmour. Enfin, plutôt Zemmour et le modèle Tucker Carlson. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que les discours qui sont mis en avant à la télévision de plus en plus, depuis 2016, soit ce genre de discours non distancé, non analytique, où l'émotion prime la raison, où ce qui joue, c'est la logique du gang, comme on disait tout à l'heure, etc. Alors, c'est ce que moi j'appelle la spirale du discrédit. C'est-à-dire que depuis 2008, on voit ça très bien, 2005, apparition des réseaux sociaux, 2008, la crise financière, qui va mettre les gens à la rue, qui va créer, au fond, l'audience trumpiste. Hein, parce que les gens perdent leur emploi, perdent leur maison. Le storytelling qui a existé, qui était, au fond, le storytelling néolibéral dans tous les gouvernements de l'Europe occidentale, triomphant avec Obama en 2008. C'est-à-dire 2008 est une date, pour ça, très intéressante, parce que c'est le moment où le storytelling s'impose à son meilleur niveau, c'était dans sa meilleure qualité, et en même temps, c'est la crise financière qui va faire s'effondrer. C'est-à-dire que...
– Mais vous mettez Obama dans le même sac que tous ceux que vous dénoncez dans cette spirale du discrédit et du populisme.
– Pas du tout.
– Ah bon ?–
Non, pas du tout. Obama est le dernier à faire, par exemple, une campagne de crédit. Hein, le changement... positif, mais une campagne de crédit, c'est-à-dire le changement dans lequel on peut croire, c'est son slogan. C'est alors que Trump, la campagne suivante, ne fait pas du tout là-dessus. C'est une campagne de discrédit, c'est une campagne, moi je dirais, hanounesque. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de dénonciation, on surfe sur le désespoir des gens, on joue avec ce désespoir, avec ce discrédit, et en même temps on l'excite. C'est le spectacle que nous donne Hanouna tous les soirs. C'est-à-dire que avec cette logique du discrédit, on peut comprendre la forme télévisuelle que ça prend. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une comparaison avec le catch, hein, c'est-à-dire le catch, tout est surjoué, mais il y a effectivement cette distribution des rôles dont vous parliez. Chacun est une sorte de catégorie.
Alors, je voudrais qu'on revienne une seconde sur Alain Chabat, quand même. Oui. on disait au début de l'émission, c'est totalement apolitique, à la différence de Noa. Pas totalement,
non,
parce que il arrive aussi à Chabat de prendre pour cible justement la télé Bolloré et l'idéologie de la télé Bolloré. Deux petits extraits.
Avec CNews.
Le ça ou ça, je vais vous donner des titres de débat qu'on peut voir sur des chaînes d'information en continu. Si vous pensez que ce titre de débat existe et qu'il a vraiment été fait sur une chaîne d'information en continu, vous me dites CNews. D'accord ? Si vous pensez qu'ils n'ont jamais été faits sur cette chaîne, vous me dites c'est faux. A-t-on le droit d'être islamophobe ?
Oh, c'est news.
C'est news.
C'est news.
C'est news, on vérifie. C'est news, c'est une bonne réponse. Bravo. Ouais, ouais.
Quel beau débat.
Bravo.
Quel beau débat.
C'est news. Oui. C'est...
Arabe à l'école, les Français partagés.
C'est news.
C'est news.
C'est news, c'est news, c'est effectivement...
Ce soir, dont je pose la question.
Pardon, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on pourrait pas classer les races ?
Oh, je pose la question, on peut pas poser la question. Oh.
Je pose la question, l'émission qui représente tous les courants de pensée. Je pose la question, ce soir, partout, tout le temps.
Alors, formidable parodie des émissions CNews et des débats à la CNews sur le thème, je ne sais pas si tout le monde connaît le concept, de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire, c'est toutes ces émissions qui posent des questions en des termes manifestement tout à fait excessifs pour ensuite réduire un peu le champ de la fenêtre. Donc, il y a aussi du politique chez Chabat.
Oui, oui, mais je dirais, il y a du politique chez Chabat et ça nous ramène aussi au politique chez... Hanouna, c'est-à-dire qu'on est sur un groupe Bolloré où les valeurs circulent d'une chaîne à l'autre, c'est ça qui est important. Mmh. C'est-à-dire que CNews, c'est la continuité par ce côté un peu plus sérieux d'Hanouna. C'est-à-dire que c'est pas seulement Hanouna qui est en cause, c'est Bolloré qui veut faire passer un certain nombre de valeurs. Et là, ceux qui s'en prennent aux médias et qui n'ont pas confiance dans les médias ont raison, il y a bien une importance du patron d'industrie sur le reste. Alors bon, là je crois que effectivement Chabat est un un petit peu politique quand il fait ça, mais c'est encore sous forme de jeu. C'est-à-dire que ce qui me paraît différent, si vous voulez, c'est qu'il y a, il y a une communauté d'humour, c'est-à-dire que c'est tellement excessif que tout le monde en rit. Alors que chez Hanouna, c'est une communauté politique, c'est-à-dire que en fait chacun partage les mêmes valeurs et qui sont des valeurs quand même d'extrême droite, moi je dirais.
J'ai envie de dire que le même, je veux dire que pour la partie politique des émissions de Chabat qui est pas la majorité du contenu de ces émissions, le consensus est le même. On a des émissions anti-C8, anti-CNews, plutôt de gauche pour dire les choses comme elles sont.
C'est vrai.
Oui. Oui, mais pour nuancer, enfin, je suis d'accord avec vous, mais pour apporter une petite nuance, je dirais que, en fait, quand on parle de l'esprit canal, c'est au fond le prolongement de l'ère Mitterrand. Moi, je pense que Chabat fait, enfin, par les procédés qu'il utilise, il est politique. C'est une position antiraciste, c'est une position, j'allais dire même écologiste. On a tous les thèmes de la gauche traditionnelle qui sont portés. C'est l'époque où cette gauche est dans le débat public dominante.
Dans une chaîne alors présidée par André Rousselet, ex-directeur de cabinet de Mitterrand à l'Élysée.
– Absolument, voilà. Absolument. Et quand on repense au guignol de l'info qui faisait l'actualité absolument tous les soirs, il véhiculait cette idéologie. D'ailleurs, celui qui rédigeait le texte des guignols est aujourd'hui supporteur de Jean-Luc Mélenchon.
– Bruno Gassiot, oui, qui était un des trois paroliers.
–
C'était quand même trois.
Donc la question qui nous est posée à travers cette question de est-ce que c'est politique ou non, c'est au fond l'articulation entre ce que vous avez appelé l'engagement, c'est-à-dire ce que vous dites engagement, vous ne parlez pas de l'engagement politique, mais l'économie de la tension.
– Non mais je joue un peu sur cette ambiguïté aussi. –
Voilà, c'est ça.
– C'est qu'on va chercher à engager
les gens. – C'est-à-dire que la question c'est qu'aujourd'hui, l'engagement est articulé, il y a une sorte d'affinité entre un certain engagement sur les réseaux sociaux et des positions d'extrême droite. La transgression, elle n'est plus de gauche, c'est-à-dire la critique du capitalisme, la critique du racisme, SOS racisme, etc. etc. Ça a basculé complètement dans ce qu'on appelle la bataille culturelle, la bataille civilisationnelle de Bolloré, et sur des positions d'extrême droite. Et c'est ça qui explique vraiment la différence entre Chabat et Hanouna. Sauf que Chabat, on le regarde aujourd'hui avec un œil nostalgique et un œil un peu…
Enfin, notre génération.
Parce que finalement, ce qui est frappant pour l'audience d'Hanouna, c'est que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, cette position à la télévision.
Laquelle ? Celle de Chabat ?
Celle de Chabat.
Pour le public d'Hanouna ?
Oui.
Ah oui ?
Ben oui. D'ailleurs, il le dit, le public n'a pas aimé, quand il parle dans l'extrait que vous avez montré, le public n'a pas aimé, les réseaux sociaux, le second degré, c'est pas du second degré, accident industriel.
La différence entre Chabat et Hanouna, c'est que chez Chabat, la différence de classe, l'opposition de classe, pour prendre un vocabulaire marxiste, n'est pas consciente. Chez Hanouna, la différence de classe est consciente. C'est-à-dire qu'il joue du fait qu'il pense appartenir à une classe sociale ou qu'il se voit comme le champion d'une classe sociale qui est la classe populaire, dont il va surjouer ce qu'il pense être les traits. Et il va opposer délibérément et frontalement Chabat en disant « ça coûte cher, ils sont payés cher, c'est pas votre humour, c'est pas compréhensible, ils sont entre eux, c'est des bobos ». Et ça, lui, il joue explicitement
Baba contre les bobos. Il s'est positionné comme ça.
Mais je pense que ce qui différencie la télévision, si on veut Bolloré, et ce qui pose un vrai problème au reste des médias, et notamment ce qui reste des médias de gauche, c'est cette fait qu'on ne pense plus le concept de classe, mais que lui le pense. Et le concept de classe, aujourd'hui, est pensé à l'extrême droite. C'est ça qui est compliqué. C'est au fond, on fait du Trump, effectivement. C'est-à-dire qu'on va jouer sur des colères populaires. On va voir émerger des colères contre un fait divers et on va demander la peine de mort. On va être branché sur ça parce que ça commence à faire boule de neige, ça fait de l'audience. Et qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qui marche, c'est la négativité. Ça va être des sentiments d'extrême droite, beaucoup, qui ne sont pas forcément les plus représentatifs, mais qui sont les plus exprimés quantitativement. Et quand vous êtes, par exemple, je vais prendre un exemple, quand vous êtes un fact-checker comme Julien Pin, qui fait très bien son travail sur France 5, vous allez vous retrouver totalement isolé sur les réseaux sociaux. À la télé, vous êtes très entouré, vous êtes hyper soutenu. Sur les réseaux sociaux, ce garçon est tout seul pour se défendre contre des milliers d'attaques quotidiennes, qui ne sont pas représentatives de la majorité de la population. Mais le problème, c'est que Hanouna étant le seul branché sur les réseaux sociaux, le seul endroit où on parle de ces thématiques, c'est chez lui. Et donc, ça crée une espèce de bulle médiatique que personne ne vient percer parce que personne ne va prendre à bras-le-corps le problème.
Moi, ce que je voudrais dire, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais entre la différence entre la politique Hanouna et la politique Chabat, c'est que Chabat, il met en avant, vous l'avez bien dit, des valeurs humanistes, en fait, hein, contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Hanouna, lui, il lutte contre les institutions. Et c'est ça le discours populiste. C'est-à-dire dire la justice, on s'en fout, il y a un droit naturel avant, etc. C'est sans arrêt, si vous voulez, le refus des institutions qui ne marchent pas, qui mettent trop de temps, etc. Ce qui n'est pas du tout pareil. Il y en a un qui travaille sur les valeurs, l'autre sur...
Les institutions, dont les médias.
Dont les médias.
Et particulièrement ce qu'il appelle les médias bobos, au premier rang desquels Libération et France Inter, cibles privilégiées.
Et j'aimerais bien savoir ce qu'ils font les bobos de France Inter, là, comme Sophia Aram, Guillaume Meurice et tout ça, là, tous les bobos là, de France Inter, hein, qui sont toute la journée en train de boire des cafés au Café de Flore, là, ou je sais où, hein, cette bande. Non, mais c'est vrai. Hein, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font
avec
pour les
impôts.
Gens, pour moi, avec mes impôts, parce que c'est nous qui les payons, je vous le dis, cette bande d'abrutis de France Inter, hein, je vous le dis, qui nous mettent dans la gueule toute la journée, qui font rien pour les autres, qui pensent qu'à leur petite gueule, aller boire des verres en Stan Smith, je peux vous dire, j'espère les croiser un jour. Et c'est vrai que Sophia Aram, qui est encore la donneuse de leçons, hein, qui était tranquillement certainement au Café de Flore, hein, Saint-Germain-des-Prés, en train de siroter un chocolat chaud, n'a pas aimé que le convoi de la liberté la dérange. Libération, ils tirent la langue, ils sont à deux doigts de la fermeture, donc forcément, ils essaient de faire du sensationnalisme.
Pour l'affaire PPDA, on en a parlé ici, Libé, heureusement qu'ils étaient là. Pour l'affaire Nicolas Hulot, on en a quand même parlé, heureusement qu'ils étaient là. Malgré tout, Weinstein, ça sort aussi par la presse. Donc il faut faire aussi attention.
Vous avez des amis à Libération ?
Pardon ?
Vous avez des amis à Libération ?
Non. Non, mais je trouve que malgré tout, parfois, la presse sert de lanceur d'alerte.
Vous n'en avez pas ?
Pardon ?
Vous n'en avez pas ?
Non.
Je peux vous dire que c'est pas Libération qui a fait avancer la France depuis des années. Libération a fait plutôt reculer la France. Et d'ailleurs, on voit, ils sont lus par 35 000 personnes quand ça marche. Je dirais toujours, Baba contre les bobos. Voilà, c'est insupportable. Non mais je vous le dis, la France des bobos et la France de Baba pour moi. Voilà. C'est pas que la justice, c'est aussi de nombreux médias. Attention,
oui,
je vous le dis, de nombreux médias qui les renforcent et qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est mon combat du moment, sachez-le. Et vraiment, c'est insupportable. Les petits délateurs comme ça, les bobos qui foutent un bordel monstre.
Il est dans l'insulte continue.
Vous n'êtes pas venu pour rien, Christian Salmon. Vous dites, j'apprends plein de trucs aujourd'hui. Vous devriez regarder davantage. Hein, alors, qu'est-ce que vous apprenez?
Non, ce qui me frappe, c'est j'ai fait une chronique dans Slate là-dessus cette semaine sur le phénomène Hanouna. Je pense qu'on le survalorise en le traitant comme un phénomène exceptionnel. Alors, ce qui est exceptionnel, ben un phénomène unique, comme j'entendais. Un éditorialiste, ancien directeur de l'Express, qui participait à une émission avec moi, parlait du talent d'Hanouna, etc.
Christophe Barbier,
pour ne pas le nommer. Et moi, je pense que Hanouna est un phénomène banal, en fait, dans le contexte actuel. Parce que j'ai fait cette chronique j'ai retrouvé dans une série britannique qui s'appelle Black Mirror.
Bien connu.
Bien connu, oui. Un épisode qui date de 2013. Sur un dessin animé. En fait, c'est un ours en colère qui, on pourrait dire, attaque les bobos, attaque tout ce qui fait...
attaque les politiciens traditionnels.
La politique traditionnelle.
La politique traditionnelle.
Et au départ, c'est un phénomène à la Hanouna, voilà, on le voit à l'écran. C'est-à-dire qu'il est dans une émission de télévision. Et puis, il va, à la faveur d'une élection partielle, basculer dans la politique.
Alors, on regarde un très court extrait et on en parle ensuite.
Hey, you, mum with the pushchair. Yeah, you. Ask Mr. Munro why he's ignoring me.
Why are you ignoring Waldo? Mr. Munro, what's Waldo done to you?
We should probably just shift before this turns stupid. I'm not walking away from a cartoon.
I'm not ignoring you.
Yeah, you were. You upset me.
You made Waldo sad.
Obviously, I'm absolutely devastated that you're upset. I'm not ignoring you because there is no you. You are an image voiced by a comedian, an alleged comedian, more accurately.
If I'm not real, why are you talking to him? And by him, I mean me, nubber. Right.
Well, there's no point in attempting to converse with a cartoon.
Alors, je dois dire, le dialogue entre le cartoon et le politicien qui essaye de rester digne est coincé, la manière dont l'animateur du dessin animé essaye de mettre les rieurs de son côté. C'est vrai que regarder aujourd'hui, à l'ère du triomphe d'Hanouna, cet épisode de Black Mirror est quand même assez frappant.
C'est impressionnant parce qu'en fait, il va donc se déclarer candidat dans cette élection partielle et il va passer toute la campagne.
Alors, le dessin animé, hein, c'est lui qui se déclare candidat.
C'est ça. Ouais. Il est donc le comédien qu'on voit qui lui prête sa voix est dans un van et ce van va circuler. Et la seule chose que fait ce Waldo, en fait, c'est de démolir la politique, de démolir les politiciens, qu'il appelle les politiciens. Et donc, ce qu'il faut rajouter en post-scriptum, hein, ce qu'on vient de voir, c'est qu'au moment en 2013, donc, lorsque l'épisode Waldo est sorti dans la série Black Mirror, c'est l'épisode qui a été le moins aimé par ceux qui suivaient la série. Et même son réalisateur, qui est un ancien journaliste du Guardian, excellent journaliste et excellent showrunner, lui-même a cru que, bon, il avait raté l'épisode. C'est pour dire que c'était tellement impensable, 3 ans avant le Brexit et l'élection de Trump. Et par contre, lorsque Trump a commencé à faire campagne, le créateur de cet épisode s'est réveillé en disant « Mais c'est Waldo !» Et il a été un des seuls aux États-Unis à prévoir la victoire de Trump. Et lorsque Trump a été élu, dans la nuit du 8 novembre 2016, il a tweeté « Ceci n'est pas un divertissement, ceci n'est pas un spectacle, c'est notre réalité politique. Nous avons traversé le Brexit, nous sommes maintenant dans Trump. » Et donc, moi, je pense qu'il faut défocaliser un peu la problématique Hanouna en voyant tout ce qui se passe autour. Comment se peut-il que Trump, qui a été battu, certes, mais quand même, a très peu de voix, Bolsonaro, qui a pris une gestion, le président brésilien, qui est aussi hanounesque, on l'a vu pendant la crise du Covid, a pris une gestion catastrophique du Covid, des millions de morts au Brésil, fait quasiment jeu égal avec Lula. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui articule le mécontentement des gens, la spirale du discrédit, et les réseaux sociaux qui fonctionnent à la transgression, comme vous le disiez tout à l'heure. Parce qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé quand même, c'est les GAFAM. C'est encore plus important que Bolloré. Hein, c'est-à-dire l'algorithme qui privilégie les messages transgressifs, négatifs.
Je vous rassure, heureusement Elon Musk a pris la direction de Twitter et va remédier à tout ça. C'est certain. Non, je plaisante. Hein. J'essaye de faire de l'humour, ça tombe à plat.
Non, c'est pas hors sujet. Je réfléchissais à ce que vous disiez parce que Musk est l'archétype de ce genre de politique qui se présente pas comme politique. Mais Musk, il faut quand même dire une chose, c'est que c'est un libertarien. Tout ce qu'il raconte sur la liberté d'expression, qui était très très présente dans le débat avec le député Boyard, hein, c'est-à-dire on peut tout dire, on peut absolument tout dire, sauf que si vous touchez au centre du pouvoir, là c'est interdit.
Côté Hanouna chez Elon Musk.
Je trouve.
Il est partout Hanouna, alors je ne dis rien. Attendez, Bolsonaro c'est Hanouna, Trump c'est Hanouna, Musk c'est
Hanouna. C'est une logique populiste et on le met dans la BD, c'est ce qui fait que j'étais étonné et ravi d'être invité sur son plateau parce qu'on a tout un paragraphe pour dire en fait Hanouna pour nous c'est la tentation populiste, donc c'est ce que vient d'écrire Christian. Salmon. Il y a quelque chose.
Attendez, s'il vous invite, c'est que ça lui sert finalement que vous disiez ça.
Je pense que la tentation du politique existe chez lui et je pense qu'il y a quelque chose qui était de l'ordre du miroir qu'on lui a tendu, qui ne lui a pas déplu.
Excusez-moi, je n'ai pas lu votre BD. Confesse, mais est-ce que dans votre BD, il était question de Bolloré et du rôle de Bolloré derrière Hanouna?
Alors, on n'a pas surjoué le côté. Nous, on ne voulait pas rentrer dans l'idée machiavélique d'une intentionnalité. Je pense que malheureusement, les choses sont un peu plus contingente que ça, mais on est en ami en scène Bolloré, bien sûr, qui lui dit au début, vas-y, tu as carte blanche. Enfin, ouais. Qui lui envoie un communicant pour essayer de cadrer les excès d'Hanouna, qui pourraient avoir des impacts négatifs au niveau business. Et donc, Bolloré lui envoie un communicant, mais quand Hanouna commence à vraiment se prendre au jeu et vouloir se présenter à l'élection, Bolloré fait ce qu'il aurait probablement fait si la situation s'était présentée à plus de 50% d'intention de vote. Il essaie de le débrancher, parce que ça va un peu loin. Bolloré est punk jusqu'à un certain point. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que Patrick Boucheron, l'historien, a dit quelque chose qui est très intéressant sur Waldo et qui rejoint aussi Hanouna. Quand un politicien devient sa propre caricature, il le disait à propos des leaders italiens du 16e, c'est inattaquable. Parce que quand un politique est sa propre caricature, vous ne pouvez plus le caricaturer. Vous ne pouvez plus l'attaquer. Vous
il pensait à qui il pensait à qui
Il pensait à des... Pensez à des leaders italiens, enfin des leaders italiens, des monarques italiens qui avaient mis en scène leur propre laideur sur des statues qu'ils exhibaient en public. Et donc ils se présentaient eux-mêmes comme des formes de caricature. Donc ils savaient qu'ils pouvaient être attaqués sur des défauts qu'ils avaient. Et au lieu de les subir, comme le monsieur tout à l'heure, il les jouait, ce qui fait qu'au fond, il devenait inattaquable.
Le retournement du stigmate.
Trump retourne le stigmate très bien, c'est ce qu'il fait en permanence.
Est-ce que Waldo, c'est préfigure Hanouna?
Préfigure, je sais pas, parce que Hanouna existait avant 2013, je pense. Mais c'est possible, c'est-à-dire qu'on sait bien. Là, il a fait revenir Bigard, qui était aussi un candidat potentiel aux élections présidentielles. Oui. À un moment,
très virtuel.
À un moment, bon, on ne sait pas si ce ne sera pas le cas d'Hanouna. Moi, je voulais juste dire une chose par rapport à votre intervention en plateau. Moi, j'ai été invité par Hanouna dans un documentaire qui a été consacré à lui. Et j'avais été invité par sa production. Et j'ai dit, vous savez, je vais dire des choses quand même qui vont être difficiles. Il dit, non, nous, c'est la liberté, il n'y a pas de problème, etc. Donc, bon, j'ai parlé comme ça pendant une demi-heure. Il n'en reste rien. Il a tout coupé. Donc voilà, la liberté.
Sur la mise en scène de ses propres défauts, enfin, le côté auto-caricaturiste, il y a d'ailleurs, au moment de l'élection de Trump, un caricaturiste politique du New Yorker qui a fait cette réflexion. On est désarmé parce qu'on ne peut pas. Il est à lui-même sa propre caricature.
C'est ce que disait Bourchard.
Il parle comme un clown, il marche comme un clown, etc. Mais... vous parliez de Boucheron, on pourrait ajouter...
Patrick Boucheron, l'historien. Ouais.
Oui, on pourrait ajouter les réflexions peu connues de Michel Foucault sur le pouvoir du grotesque, hein, que j'ai revisité dans mon livre La tyrannie des bouffons, qui est sorti il y a 2 ans. C'est-à-dire, la question du grotesque, c'est lorsque vous attaquez à vous-même, vous pitralisez votre rôle, vous pitralisez de pitre.
Ah, du mot pitre, d'accord.
effectivement, vous n'offrez aucun espace à la critique. Et en exagérant absolument vos défauts, c'est-à-dire,
excusez-moi, mais c'est très traditionnel dans les médias français, même modernes. Par exemple, je pense à la manière dont, quand Jean-Pierre Elkabbach était à Europe 1, juste derrière l'interview de Jean-Pierre Elkabbach, Canteloup se payait l'interview de Jean-Pierre Elkabbach et se payait les défauts d'Elkabbach, c'était exactement la même manière de neutraliser toute attaque possible contre les interviews complaisantes d'Elkabbach.
Oui, tout à fait. Mais ce procédé-là n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est la manière dont le charisme du politique est incarné. On pense à Max Weber, le charisme, c'est soit la personnalité qui irradie, tel François Mitterrand, qui est peut-être le dernier à avoir eu un charisme, ou bien la tradition, le respect de la tradition, le respect des institutions. Là, on est complètement dans un modèle inverse. Et Foucault disait, en s'inspirant, parce qu'il n'avait pas, c'est ça qui est extraordinaire dans l'analyse de Foucault, c'est qu'il n'a pas sous les yeux ce que nous avons depuis 2016. Et pourtant, il théorise ça en disant, au fond, si vous déjouez complètement, il pense à Néron, il pense à Hitler, il pense à Mussolini, qui d'une certaine manière jouait aussi sur le grotesque. Hein. Pas de manière consciente, mais on pouvait les critiquer parce qu'ils étaient grotesques sans le savoir, et donc ça a pu donner Brecht.
Vous allez mieux pas trop les critiquer dans leur pays.
Oui. Mais en tout cas, l'idée fondamentale du pouvoir grotesque, c'est que si vous vous désinvestissez toute forme de charisme, alors d'où vient votre pouvoir? Il ne repose pas sur le charisme. et donc il est absolu. Donc Foucault dit, le pouvoir grotesque, c'est la source du pouvoir arbitraire. Et là, on comprend mieux aussi le lien qu'il y a, on l'a vu avec Trump. Il peut faire n'importe quoi, il peut dire, vous avez le Covid, soignez-vous avec un désinfectant, enfin, les choses les plus absurdes. L'eau de Javel, ouais, et les choses les plus absurdes, non seulement ne délégitiment pas celui qui tient ses propos, mais le légitime dans l'esprit public qui ne croit plus en rien.
Eh bien, écoutez, je vois que cette innocente petite tentative de comparaison entre Alain Chabat et Cyril Hanouna nous a élevé très haut dans l'histoire et dans la géopolitique. Merci à tous les trois pour cette conversation. Merci de nous avoir suivis. On espère ne pas avoir été trop ennuyeux. À la semaine prochaine.